Oui, je voulais savoir finalement dans votre théorie, il y aurait l'idée que il n'y aurait du nouveau que parce qu'il y aurait de l'ancien, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que au fond, on a l'impression que la nouveauté ne pourrait apparaître que parce qu'il y a du même aussi. Donc, est-ce que c'est un, est-ce qu'il faut en être conscient de cette idée que le nouveau n'apparaît que sur une base, ou est-ce qu'il faut être dans cette recherche systématique du nouveau? Je ne sais pas si je me suis bien. J'ai été clair.
Oui, je pense que vous avez raison qu'on ne peut pas imaginer ou sentir la nouveauté du moment ou de quelque chose s'il n'y a pas un arrière-plan. Et un arrière-plan du passé et de l'attendu. Ou même si ce n'est pas attendu, c'est au moins prévu, pardon, familière. Parce que ce qui se passe en fait dans, disons, dans la musique, une interaction qui devient, c'est disons qu'on est ici dans le ligne mélodique d'une action, on ne sait pas la fin, même dans un geste. Si je fais comme ça, vous ne savez pas ce que je vais faire à la fin. Il y a beaucoup de finalités qui sont possibles. Je vais faire ça, je vais faire ça, je peux faire un tas de choses. Mais il y aura une finalité. En fait, on sait que quand on entend la musique, par exemple, si on arrête, disons, une phrase musicale de 7 notes, et vous entendez les premières 4, ce que vous faites, c'est dans votre tête, vous allez construire ce qu'on appelle les musiciens, les implications de ces 4 notes. Il n'y a pas une quantité illimitée des implications. C'est qu'il est différent qu'une prévision. Ça peut terminer comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et en fait, ce qui arrive quand on entend la musique, c'est si il y a une de ces implications qui était réalisée, il y a un sens d'être content. S'il y a un nouveau que vous n'avez pas réalisé, une toute petite variation sur les implications possibles, on peut avoir des cris de joie incroyables, la voix être surprise dans cette manière-là. Et c'est exactement comme on regarde les comportements des autres face à nous, en fait. C'est dans ce sens-là, qui veut dire que ce n'est pas, en fait, forcément même le passé qui est l'arrière-plan. Ça peut être des choses qui existent dans le moment présent. Parce que quand vous entendez une phrase musicale, pendant ces 4 premières notes, vous n'étiez pas encore dans le passé, vous êtes encore dans le moment présent, avec une durée étendue, et vous faites une implication dans un avenir qui reste aussi dans le moment présent. C'est pourquoi c'est vrai ce que vous dites, mais il ne faut pas imaginer un passé habituel du style qu'on a l'habitude, parce que la plupart sont, comme je dis, pas forcément contre l'autre.
Excusez-moi, je peux me reposer une... par rapport au cadre justement psychothérapique, vous abordez l'idée de changement. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, les changements ne vont aboutir que lorsqu'on jouera sur le cadre en lui-même?
Non, il ne faut pas qu'on joue avec le cadre officiel du traitement, qui était le cas dans l'exemple que je vous ai donné. On peut jouer avec, parce que là, on risque d'avoir une actine in, etc. Non, on peut jouer avec le cadre de qu'est-ce que c'est la manière habituelle que vous avez l'habitude d'être ensemble, à l'intérieur du cadre technique acceptable, mis en place. Parce que là aussi, on est ensemble dans beaucoup de manières d'être. Et c'est des variations de ça qui peuvent faire la même chose. J'ai une question, si je peux. C'est pas à moi. C'est à vous deux, dans ce sens. Je réalise que dans le système mis en place par Peter Loxie et aussi dans la manière que toi t'as décrit la thérapie et cette relation, là, vous deux avez mis plus de poids sur le thérapeute ou le nurse comme quelqu'un relativement plus passif qui attend de laisser advenir quelque chose qui était initié dans un sens soit par le bébé ou dans ton cas par la patiente. Et je me dis que probablement c'est légèrement le cas. Mais je le vois comme un système diabique où en fait c'est en général archi difficile de savoir en fait d'où vient l'initiation. Et pour moi, c'est vraiment un système dyadique relativement égal. Et même dans cette bain-là, c'est le poser d'une main qui a ouvert la porte que l'enfant peut être présent pour commencer un petit regard qui déclenche un petit moment social. Alors, qui a déclenché? Et je trouve que c'est important parce qu'autrement, on a l'impression que la mère ou la mère ou le thérapeute est beaucoup plus passif qu'ils sont. Parce que chaque fois qu'il dit quelque chose, ou son silence, etc., il change le cadre local aussi. Dans ce sens-là, je ne veux pas que le poids soit trop lourd sur cette partie-là. Ça, c'est une question.
Moi, je sens pas le mot passif convient. Enfin, nuancé, parce que c'est. Moi, je sens que dans l'attitude de la nurse, dans le bain que j'ai présenté, il y a beaucoup de niveaux différents. Et j'ai l'impression que, d'une part, elle est active dans la conduction de déroulement de soins, mais qu'elle ajuste par rapport au bébé. D'autre part, elle est active dans son attention et dans sa réceptivité et dans cet espace qu'elle fait en elle pour que le bébé puisse venir. Donc moi, je ne vis pas ça comme... Enfin, effectivement, elle est dans un certain retrait projectif, émotionnel fort, mais elle est très dans une prédisposition pour une rencontre. Et... Moi, par exemple, un moment fort de rencontre pour moi dans ce bain, et j'aimerais bien savoir comment on pourrait le dessiner, c'est le moment quand la nurse, en nettoyant les plis, arrive aux plis des fesses, et le bébé se raidit, alors qu'elle était relativement détendue. Et elle sent ça, et elle arrête, elle se penche sur le bébé, elle lui dit, tu as les fesses rouges. Et à ce moment-là, le bébé, qui était pas mal de fois déjà à chercher à regarder sa main, il y a un moment difficile à qualifier, un peu d'arrêt, et après elle amène le point devant ses yeux et elle le regarde tout autrement. Comme si elle arrivait à vraiment le voir cette fois-ci et le garder. Et moi j'ai toujours imaginé que ce qui s'est passé, c'est que le fait que la nurse était dans une telle adéquation et qu'elle a ressenti ce petit raidissement de corps, qu'il s'est passé quelque chose pour l'enfant, qu'elle a arrêté, c'est là où elle pose la main et elle lui dit, cette restitution de son vécu de bébé lui a fait avancer au galop de cette réorganisation et de cette unification. Et à ce moment, elle était capable de plus lier des choses et garder sa main. Et j'ai trouvé que ça, c'est un moment de rencontre l'autienne, parce que ça n'était pas passé, ça s'est passé vraiment à travers le corps et ce dialogue tonique et gestuel, etc. Et enfin, je ne sais pas comment le dessiner. Parce que je trouvais que c'est un moment assez organisateur.
Il me fallait revoir. Il faut que je le revoie. Pour voir parce que
quand on raconte comment on s'est comporté en face donc là de la petite Julie avec sa mère, la manière dont on raconte tord un peu les choses. Parce que c'est vrai qu'on ne peut raconter que ce qui a été le plus violent, sans doute. C'est-à-dire que ce qui a été le plus violent pour moi, ça a été de me retenir, de prendre le bébé dans mes bras. Je trouvais ça insupportable, ce qui était en train de se passer. Et alors que la partie d'activité de ma position, c'était de me mettre à la place du bébé. Et alors, c'est quelque chose qui est totalement inconscient. Je veux dire, comment on s'identifie à l'une et puis ensuite à l'autre, et qu'après, dans cette espèce de mouvement bizarre, on se dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, c'est sûr que c'est extrêmement actif ce qui se passe en soi. C'est-à-dire que moi, je ne me sentais pas du tout dans un mouvement passif. Alors, le mot que je dis, moi, pour dire ça, c'est contenant animé. C'est-à-dire que je dis que la petite fille et la mère étaient comme des contenants morts, alors que moi, j'étais un contenant animé par l'intention de refaire circuler la vie, de reconnecter avec le temps qui s'écoule, avec quelque chose comme ça.
Ok, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais au niveau théorique, pour moi, dans un système dynamique, comme deux personnes, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose ou ne fait pas quelque chose, ils ont changer le contexte, qui veut dire que chacun est forcément une contenante pour l'autre. La raison qu'on pense que c'est plutôt le thérapeute ou la mère ou le nurse qui est contenant, c'est parce qu'on imagine que c'est eux, en fait, qui a la plus grande responsabilité de régler un tas de choses chez l'enfant. Mais quand on entre à le niveau local petit, les deux se contient l'autre dans un système dyadique. C'est ça ce que j'insiste, autrement, moi je ne peux pas le comprendre.
Oui, j'ai une réflexion par rapport donc, au travail des nurses et avec la problématique de faire, enfin, tel que je le vois, une institution qui est suffisamment soutenante, contenante, accompagnante, et en même temps qui ne crée pas d'attachement spécifique, donc des deuils, etc. Et par rapport à ça, je me demande s'il n'y a pas là, d'une façon socialisée, la création d'un espace intime qui est partagé justement par une espèce de contenant institutionnel qui est lié justement à un certain nombre de pratiques sur lesquelles le bébé va pouvoir s'appuyer. Donc c'est plus uniquement dans la singularité d'une relation interpersonnelle, mais effectivement dans quelque chose qui se socialise dans un espace qui est de l'ordre de l'intime, mais social, puisqu'il est partagé par l'institution. Vous voyez ? Et donc, peut-être que cet enfant va pouvoir, je converge, mais moi ça m'intéresse beaucoup que la grammaire de l'intime, enfin, peut-être qu'à notre époque, justement, on est en train d'inventer peut-être une grammaire de l'intime, c'est-à-dire que les individus, bon, d'un côté il y a la société hyper, dans des relations de fonctionnalité, etc., donc il y a un désir d'intimité qui est de plus en plus grand, et peut-être des besoins d'intimité qui surgissent, qui naissent. Et là, bon, spécifiquement, donc c'est la question que j'ai sur cette idée de construction d'un espace intime qui est donc partagé par les différents membres de l'institution, donc qui n'est plus uniquement dépendant d'une mère ou d'un père spécifique, et qui permet la construction et que l'enfant, justement, advienne.
Déjà, moi j'ai l'impression, surtout si je reprends l'idée de moment présent, qu'il y a vraiment de l'intime entre la nurse et le bébé. Aussi, c'est très difficile à connaître un peu comment ça fonctionne, mais sur le plan un peu plus général, il y a tout à fait un attachement spécifique. C'est pas, enfin, c'est, il y a donc quatre nurses avec des bébés, mais il y en a une responsable particulière, référente, privilégiée, avec laquelle ce premier attachement est vraiment créé. Sinon, le bébé ne pouvait pas s'en sortir. Donc il y a ça. Et puis, peut-être que la conception de ce que c'est intime, c'est ça peut-être qu'on pourrait discuter, qui est tout à fait passionnant, parce que j'ai l'impression, quand, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, que c'est tout à fait intime cet échange autour de fesses rouges, par exemple. Et que là, on est très proche de quelque chose qui concerne vraiment le bébé. Mais peut-être que l'intime, quand ça part de quelque chose qui concerne réellement le bébé, parce que c'est vrai que le monde qui se crée avec ces bébés-là et ces nurses-là, il part pas de la même... Je sais pas comment dire ça, c'est pas musique, mais c'est pas le même base, on va dire. Donc, il n'y a pas tellement l'adulte qui est dedans, avec son désir ou son intimité à partager. Il y a beaucoup de ce qui émane, qui vient de bébé ici maintenant, et avec plein de petites choses de son vécu et de son éprouvé, sur lequel l'adulte va raisonner, et réagir et accompagner. Et pour moi, c'est tout à fait semblable, pour moi c'est une intime. Début de réponse, parce que ça demande beaucoup de réflexion, mais je ne le vis pas du tout ça, que c'est socialisé, que c'est partagé, parce que ce moment vécu, le ici et le maintenant, le moment, ça se partage qu'entre ces deux partenaires, qui est le bébé et cette nurse-là, dans ce moment-là. Et s'il y a une continuité de la reprise de cette relation, parce qu'il y a, par exemple, cette nurse privilégiée qui retrouverait ce bébé, elle va connaître, alors c'est sa connaissance qui est très intime. Et j'ai l'impression que nous sommes, enfin ce que j'ai compris depuis Claire, beaucoup grâce à Eva Kahlo aussi, c'est que l'accent est beaucoup mis, enfin la manière qu'elle a accompagné les mères, c'était connaître ton bébé et répondre lui par rapport à ce que tu connais de lui. C'est quand même pas du tout la démarche qu'on a en habitude. Enfin, et moi je trouve qu'il y a nous, peut-être c'est une autre façon de vivre l'intime.
Cette institution garde les bébés jusqu'à quel âge?
Ah, c'était prévu qu'ils les gardent dans les premières 3 années de la vie, mais les situations, les contextes font que maintenant, l'outil fonctionne bien avec des enfants jusqu'à 5, 6, 7 ans.
Et après,
il y a Eva Kahlo qui est ici de l'Institut qui peut vous répondre.
Garde les enfants jusqu'à le moment où on a réussi à trouver une solution familiale à lui. Donc, ça dépend. Il y a certains enfants qui ne restent que quelques mois. Mais il y a des enfants qui doivent rester chez nous jusqu'à l'âge de 7 ans parce que nous n'avons pas de possibilité de trouver une famille adoptive, par exemple, parce que les parents, quelquefois, viennent nous visiter, quelquefois disparaissent. Donc, ça dépend de juge, etc., quel est le moment où, finalement, nous pouvons placer les enfants dans nos familles.
J'ai trouvé très, très intéressant toutes les... tout ce que nous avons dit sur les interactions entre la nurse, l'enfant, le bébé, le moment où se passe quelque chose de nouveau. Effectivement, dans le travail de psychanalyse, le grand danger, comme tout le monde le sait, c'est la répétition, hein, c'est de ne pas pouvoir justement, comme un vieux disque usé dans lequel se mettent le psychanalyste et le patient, sans pouvoir justement trouver le moment, comme vous le disiez, où quelque chose de nouveau se passe. Mais ce qui me gêne un tout petit peu dans l'exposé, les films que nous avons vus, c'est justement l'après, l'avenir, parce que il me semble que dans ces rapports entre la nurse et le bébé, grâce à quelque chose de très ritualisé, on arrive à évacuer l'excitation. Hein, y a un travail autour de l'excitation qui est un petit peu redouté, qui est fui,
Il y a une sorte de neutralisation de l'agressivité, ce qui d'ailleurs apparemment rend des résultats merveilleux, parce que les enfants ont l'air extrêmement épanouis, hein, ils sont de bonne humeur, ils sont absolument pas effrayés, etc. Donc c'est quelque chose de très positif. Et en même temps, ce que vous avez dit sur l'absence de séduction, de colère, de réaction, je dirais, intempestive dans le Iketnak, me paraît devoir poser des problèmes pour l'après de ces enfants, justement, quand ils arriveront dans une famille où rien ne sera aussi réfléchi, aussi ritualisé. Ils vont être confrontés à la fois à l'éros, qui peut les avoir faire peur, et à l'agressivité qui peut les bouleverser.
C'est important de réviser le contexte de Pekaboxy comme un orphelin, orphelinat. Et puis, moi j'ai pas mal d'expérience avec les orphelinettes, en fait, plutôt dans les pays d'Est, en Roumanie, Bulgarie, Lettonie, etc. Et puis, quand vous voyez ça, quand vous voyez les enfants avec les orphelins, c'est presque comme un miracle, ce qu'ils font. Et puis, ce que je me dis par rapport à ça, c'est, et on revient à ce que vous avez dit là, peut-être la seule chose qui est, si on n'est pas psychotique, ou une sorte de personnalité grave, etc., la seule chose qui est pire que d'être névrotique, c'est de ne pas être névrotique. Et j'ai le fantasme qu'en fait, dans ce système, grâce exactement parce qu'il n'y a pas ce transfert parental sur l'enfant qui peut introduire toutes les choses qui sont fascinées à notre culture, comme la séduction et le mensonge et tout ça. J'imagine qu'on peut créer ici les enfants qui ont échappé la psychose du style ou de l'autisme, de tout ce qu'on voit dans les orphelinats ailleurs et qui sont relativement normales, même avec les disavantages de ne pas être névrotique ou d'être névrotique dans ce style qu'on n'a jamais vu avant. Et je me demande, peut-être c'est une névrose spécifique qui porte le nom de l'orxy, je ne sais pas, mais Dieu sait, ça c'est mieux que toutes les autres possibilités étant donné la situation. Je ne sais pas si ce n'est pas exactement une réponse, mais je le vois à peu près comme ça. Parce qu'en fait, juste pour continuer ça un petit, nous avons mangé ensemble avant, Juliana m'a dit, parce que j'ai dit, mais est-ce que les nurses aiment les enfants? Qui est une question vraiment du style de Véronique, où tout ce transfert peut être mis en acte. Très... Et elle m'a répondu très sagement. Elle m'a dit, dans cette situation, comment est-ce que vous allez définir l'amour? Comment est-ce que tu vas savoir quand c'est là? En fait, moi, j'ai l'illusion que je sais, mais peut-être je sais que quand c'est moi qui le fais, et pas autrement. Et je trouve que c'est archi difficile, cette question, avec les femmes aussi sensibles et super comme les femmes de Peter Locke. Mais bon.
Oui, ça rejoint un petit peu cet échange juste là. Je me suis posé la question à un moment, est-ce que cette approche-là ne générait pas des introvertis? Alors, j'ai eu plusieurs points qui se sont croisés. J'ai réagi aussi sur la question d'être capté par le système nerveux des autres avec les neurones miroirs, dont je trouve l'idée effectivement très, très attractive. Mais, et puis, le pas trop besoin de l'enfant, enfin, pas trop l'utiliser, et la séduction hors jeu, etc. Est-ce que vous avez constaté des impacts sur l'attitude type extraverti ou introverti, ou est-ce que ça ne joue pas du tout?
Là, je suis d'abord obligée de répondre. J'aimerais bien, parce que j'ai la chance, je vois aussi que Geneviève Raphaël est arrivée,
et Vaccaro, si vous pouvez m'aider, ça m'aiderait bien. Je vais commencer à me dire, enfin, il y a trois choses qui dans ma tête font tout. La question que tu as posée, la remarque que ta madame a faite sur cette neutralisation, on va dire ça, de la laïcité, et c'est quel type d'enfant ça forme. Et alors, dans la préparation pour aujourd'hui, je n'ai pas réussi de mettre dans mon topo, mais il y avait une idée qui m'a beaucoup travaillé, c'est la réception de la vitalité de l'enfant. Et par exemple, j'ai dans la tête une séquence de film où un petit garçon de 8 mois, quand il est sur le table de change, il est d'une telle joie, il n'arrête pas de donner des coups de pied, ta foi. Et la nurse, elle se met un peu comme ça, que ça ne le touche pas, et elle lui dit, tu es bien contente, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, et elle est joyeuse avec lui. Et cette séquence m'avait beaucoup travaillé parce que je me suis dit, dans le temps quand j'ai appris un peu à comprendre tout ça, c'est tellement différent que ce n'est pas intentionnalisé. C'est-à-dire que l'adulte ne dit pas, plein d'interprétations possibles, qu'est-ce que tu veux me dire. Mais l'adulte est dans cet état de réjouir de la vitalité. Et je trouve que ce qui est très émouvant, c'est qu'il y a quelque chose qui permet de Seigneur, sûrement soutenu par leur institution, de recevoir cette vitalité et de justement préserver ce mouvement de vie comme ça. Alors, ça c'est une question qui m'est venue aussi de l'intimité, pour l'intimité, le ici et le maintenant, et qu'est-ce qui crée quelque chose. Et la deuxième idée, enfin, je ne sais pas comment lier tout ça, mais le fait que par rapport à l'agressivité, c'est une question qu'on a tout le temps, quand on présente évidemment. J'ai commencé mon exposé en disant que je vous amène dans un univers particulier, et c'est une de particularités. Et moi, je ne sais pas du tout, parce que par exemple, les psychanalystes, on voit par exemple Imre Herman, lui, enfin, je ne sais pas si je peux le transmettre bien, mais lui, il pense que l'agressivité, c'est une réaction à la frustration. Il ne le considère pas comme quelque chose, et que pour, enfin, ce que je conçois quand je vis, quand j'essaie de sentir ce qui se passe, d'une part c'est que l'agressivité est quelque chose qui est plutôt pour sublimer, enfin, c'est dans la motricité libre, dans les actions et les activités libres, il y a un grand champ pour pouvoir positivement et de manière sublimée travailler ça. Dans la relation avec l'adulte, c'est très compliqué parce que l'adulte est complètement dans l'accompagnement et dans les efforts à faire ensemble. Elle est dans cette attitude, donc elle n'est pas, il n'y a pas ce, par exemple, je ne sais pas comment la position de fameuse 2 ans et de confrontation arrive là. J'imagine que le rapport est tellement basé sur autre chose, et le respect de la noyau de l'enfant et ce qui vient de lui est d'une telle façon qu'on est peut-être dans un autre monde dans lequel, je ne sais pas si ça tient ce que je dis, mais pour moi, je me représente comme ça par rapport à l'agressivité. Et par rapport à la type de personnalité, je crois que les gens, comme Eva, sera mieux là pour répondre. Mais moi, je pense que justement, cet ajustement à très individualisé et cette sollicitude pour être vraiment dans ce qui vient de l'enfant fait que les enfants peuvent assez authentiquement devenir comme ils sont. Et je pense que dans les images des grandes que j'ai dans la tête, on voit les enfants explosants et très, pas tout à fait stérilisants et pas du tout un petit être qui s'intervient.
Bon. Mais il y a des enfants qui...
Il y a
énorme différence entre les enfants, donc énorme différence entre les enfants. Bien sûr, un enfant arrive finalement à certaines dispositions, certainement. On ne peut pas, bien sûr, que la situation. sa place, par exemple, dans son groupe où il vit, ça change un petit peu ses réactions. certainement la personnalité de sa référente aussi joue un rôle. Comment cette personnalité se développe. Donc, il y a beaucoup d'influence, mais finalement, il y a très grande différence entre les enfants. Peut-être qu'il y a quand même peut-être même les enfants qui sont plus fermés, qui sont plus lentes, peuvent plus facilement parler ses propres vies émotionnelles, ses propres angoisses et propres plaisirs aussi, comme généralement des enfants qui, à notre jour, vivent dans la vie. Parce que cette naturelle dans la conversation avec l'enfant, dans la conversation entre l'adulte et l'enfant, que l'adulte dès le début parle de réactions, de sentiments, des attentes, de tristesse, de tous les sentiments de l'enfant, donc peut-être un petit peu plus facilement parle de ça que les autres enfants, peut-être. Mais il y a une autre différence entre les enfants, donc c'est sûr que... Mais à l'âge de 5 jours, il y a certains enfants qui commencent à crier. Et j'entends son cri dans le jardin. Il y a des autres qui dorment, attendent, et sentent. Donc il y a une autre différence, c'est le début.
Et qui l'est ?
Je vous laisse réagir, mais je crois que ça vous laisser réagir pour tous les trois pour conclure, avant de vous remercier, j'allais dire tous les quatre. Mais je crois qu'il va être temps de conclure pour différentes raisons, des raisons d'avion, des raisons de logistique ici. Et Véronique, tout à l'heure, ça peut animer la conclusion.
Et moi, je vais surtout vous remercier pour la vivacité de votre présence, tout à fait active, qui, il me semble, nous a permis à tous les trois d'être aussi vivants. Donc, merci beaucoup, en espérant que peut-être une autre fois, on pourra encore travailler ensemble. Merci. Thank you.